Bonjour à toutes et à tous, à toutes et à tous, à toutes et à tout. Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Timothée Osterman. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
L'artiste à mi-temps, c'est le titre de votre dernière bande dessinée publiée aux éditions Sarbacane en août dernier. L'histoire de Timothée, un jeune artiste par ailleurs assistant pédagogique au lycée Aristote Briand. Mais avant de parler de ce livre, j'aimerais que l'on revienne un tout petit peu sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art de Lorraine de Metz. Dans votre bio, qu'on trouve sur le site des éditions Sarbacane, on peut lire « Il y apprend, à l'École donc supérieure d'art de Lorraine, les sombres secrets de l'art contemporain et repart aussitôt dans son Alsace natale pour se consacrer à son art mineur préféré, la bande dessinée ». Quel est votre rapport à la bande dessinée? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que c'était ce que vous aviez envie de faire? Et peut-être par rapport à ces études, qu'est-ce que malgré tout, elles vous ont permis d'apprendre ou d'acquérir comme technique qui vous serviront par la suite en tant qu'auteur de bande dessinée?
Ouais. Comme tous les enfants, j'ai grandi avec les classiques franco-belges de mes parents, donc j'avais des Tintins à la maison, Lucky Luke, Astérix et compagnie. Après, j'étais un élève plutôt moyen et du coup, j'avais pas trop d'ambition à 19 ans. Et j'ai tenté des écoles d'art, je voulais aller à l'école de l'image d'Épinal et j'étais sur liste d'attente. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé à Metz, mais complètement au hasard, j'aurais pu aller... Je pense n'importe où, quoi. Allô ? Ouais, c'est bon. J'aurais pu aller n'importe où et finalement, c'était une école plutôt d'art contemporain, donc j'ai pas du tout appris la bande dessinée là-bas, ni même l'illustration. Et j'avais quand même un prof de BD, Yann Lindingre, que j'ai rencontré là-bas. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants... Merci pour le micro. Comme il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui faisaient de la BD, moi j'étais on avait un peu une relation privilégiée, quoi. Du coup, il m'a suivi là-dessus et c'est lui qui m'a initié un peu au scénario, mais j'avais pas des cours de bande dessinée très classiques, quoi. C'est moi qui lui proposais des pages et puis il me suivait dessus, il me faisait des retours et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
Mais justement, entre les deux, c'est-à-dire entre les lectures de l'enfance, la lecture des classiques et cette école, à quel moment est-ce que vous avez peut-être découvert une autre bande dessinée qui vous a fait vous dire que peut-être, même si vous ne maîtrisiez pas encore la narration et tout ça, qui vous a fait vous dire qu'il y avait là un médium intéressant pour raconter des choses?
Ouais, c'est vraiment... J'avais très peu de culture en bande dessinée avant. Et c'est vraiment aux Beaux-Arts où il m'a initié, il m'a fait découvrir l'association et des récits assez personnels et intimes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai laissé un peu tout cet héritage du franco-belge derrière moi. Et je me suis dit, ce que j'ai envie de faire, c'est raconter ma vie tout simplement et raconter des choses un peu plus intimes. Mais après, finalement, je ne l'ai pas tant perdu que ça, le franco-belge, parce qu'on y revient toujours. Finalement, graphiquement, il y a des trucs qui me sont restés, parce que ça fait partie de ma culture visuelle, quoi.
En 2016, vous obtenez malgré tout votre diplôme, un diplôme supérieur d'expression plastique. Et cette même année, vous commencez à collaborer avec le magazine SoFoot. Et votre première bande dessinée, Voyage en tête de gondole, est publiée aux éditions Fluide Glacial. Comment est-ce qu'on se fait publier la première fois? Et là, je pense aux deux, c'est-à-dire au premier dessin, et on y reviendra peut-être, mais est-ce que c'est ce premier dessin que vous évoquez dans l'artiste à mi-temps, payé 217 €, je crois, ce premier dessin, et voilà, la première publication d'une bande dessinée?
Certains appelleront ça du piston, parce que du coup, c'est mon prof qui m'a suivi sur un projet. J'ai commencé le projet en troisième année aux Beaux-Arts. Donc en fait, pendant quasiment un an, j'ai écrit ce projet et il me suivait toutes les semaines, il me faisait des retours. Et à un moment, j'ai commencé à le dessiner, il me suivait toujours et puis il m'a dit « je te promets rien, mais on va peut-être pouvoir le publier Donc au final, j'ai jamais envoyé
de dossier.
Ouais. Non, je suis rentré par une toute petite porte. Il m'a dit, tu verras, on va t'escroquer, on va pas beaucoup te payer, mais on va te publier ton premier bouquin. Et pareil pour SoFoot, en fait, c'est en venant à Paris, un dîner avec Fluide Glacial où j'ai rencontré Bouzard qui s'occupait de qui dessinait dans SoFoot et il m'a dit ouais j'en ai marre, ça fait 11 ans que je fais ça. Et puis bah moi j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit coucou, moi j'adore le foot. Et il a pris mon adresse mail. Et après, une semaine après, je revenais sur Paris pour rencontrer les gens de SoFoot. J'avais super peur. Et ils m'ont dit, on va te payer 400 euros. Et je ne savais pas si c'était pour l'année ou pour un dessin, comme j'y connaissais rien. Et j'ai dit, ouais, pas de problème, je vous fais des factures. Et en fait, je n'avais jamais fait ça de ma vie, mais je suis allé un peu au culot, quoi.
Et ça a marché.
Ça a marché, ouais. Alors, ma production au début était un peu...
Inégal, on va dire.
Mais là, maintenant, ça fait depuis 2016. Donc, ça fait un moment que je bosse avec eux. Ouais. Et puis, ça a évolué. On m'a demandé de changer. Au départ, c'était plus sur le foot amateur. Maintenant, je fais des portraits de joueurs plus connus. Mais ça se passe très bien. J'ai eu beaucoup de chance et je crois que j'ai eu un peu de culot aussi où j'ai fait semblant de savoir ce que je faisais alors que j'étais pas tout à fait dans la maîtrise, quoi.
Toujours chez Fluide Glacial, il y aura deux autres bandes dessinées, Football District et Carpe Diem, et donc l'artiste à mi-temps aujourd'hui avec un changement d'éditeur puisque c'est publié aux éditions Sarbacane. L'histoire de Timothée, je le disais, assistant pédagogique au lycée Aristote Briand. Vous le disiez, je me suis rendu compte qu'en fait, à travers la bande dessinée, on pouvait raconter ses histoires, ses expériences. C'était le cas de ces premiers livres, du premier qu'on a évoqué, où vous racontiez votre stage d'été en tant que salarié dans les entrepôts d'un hypermarché Leclerc. Pourquoi cette histoire maintenant ? À quel moment est-ce que vous savez que vous avez suffisamment de recul sur cette expérience ou suffisamment d'anecdotes ? On va parler de la façon dont vous transformez des anecdotes, des souvenirs en récits, en images. Voilà, comment est-ce que ce projet il est arrivé et comment est-ce que s'est faite la rencontre avec les éditions Sarbacane ?
J'étais un peu en fin de cycle chez Fluide Glacial. Il y a eu des changements de direction et moi je faisais plutôt des bouquins assez longs et ils n'avaient pas trop l'habitude de faire ça, du coup j'étais déjà un peu à part et puis moi je vivais pas bien aussi le fait de souvent être classé au rayon humour avec les blagues et les trucs, je trouve que ça desservait pas forcément ce que j'avais envie de faire parce que c'est pas moi je fais pas des livres de blagues, j'ai envie de raconter des choses quand même assez sérieuses. Et du coup, pour la première fois, je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur. Et c'est pas facile parce qu'il faut un peu regarder les lignes éditoriales. Et parfois, on ne sait pas trop où placer notre travail. Moi, c'était de l'autofiction. Un peu auto-bio, un peu reportage, mais pas trop. Donc, il a fallu que je regarde un peu qui ça pouvait intéresser, quoi. Et j'ai eu une réponse assez vite, en fait, de Sarbacane. Ils étaient tout de suite très motivés par le projet. Et moi, j'ai juste envie de travailler avec des gens qui sont motivés, quoi. Donc c'était très rafraîchissant, comme on dit.
Et justement, vous dites qu'ils étaient très motivés par ce projet. Dans les Jeudis de la bande dessinée, on reçoit beaucoup d'autrices et d'auteurs qui publient des premiers albums. Comment est-ce que vous avez présenté ce projet ? C'est-à-dire, je l'ai résumé en une phrase, on va rentrer davantage dans le détail, mais qu'est-ce que vous avez montré à ce nouvel éditeur pour leur présenter justement ce sur quoi vous aviez envie de travailler ? Est-ce que c'était des planches définitives déjà ? Même s'il y a quelque chose de l'ordre de la continuité avec les précédents albums, mais avec des changements, on va bien sûr en parler. Voilà, j'imagine qu'il faut à la fois en montrer suffisamment pour que les personnes qui lisent le dossier comprennent comprennent le projet et y adhèrent. Et en même temps, il ne faut pas non plus trop en montrer parce que c'est l'idée d'une collaboration. Donc, il faut aussi montrer qu'il y a une possible évolution dans le traitement lié à l'échange avec un éditeur. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre cas ?
J'ai envoyé plus de 200 pages. Je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais j'ai toujours... j'ai beaucoup de mal à montrer des projets en...
Sur un livre donc de 250 pages.
200, ouais, 46, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal à me lancer, à envoyer 20 pages de storyboard en disant mon projet, ça va être ça. Parce que j'ai l'impression que le projet évolue constamment. Et du coup, j'avance. Et à un bon moment, je me sens obligé d'aller au bout pour voir si tout simplement j'ai vraiment envie de le faire, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il faille faire vraiment comme ça parce que c'est une perte. Enfin, c'est un peu un pari parce que si ça leur plaît pas, ben j'ai travaillé un an ou 6 mois ou 7 mois dans le vide. Mais c'est comme ça que j'ai fait. Et ils ont fait une grosse lecture et après ils m'ont proposé des pistes d'amélioration et j'ai rajouté 20 pages je crois ou 30 pages mais ça me paraissait être une bonne idée mais après quand j'ai dessiné c'était un peu plus dans la douleur parce que 30 pages de storyboard ça paraît être simple mais en fait à la fin les 30 pages on les sent quand même quoi.
Et justement, très concrètement, vous dites « je ne peux pas savoir si c'est vraiment une bonne idée tant que je ne suis pas allée jusqu'au bout ». Dans le cas de ce livre, comment est-ce que ça se passait mettre sur le papier des anecdotes, tous les souvenirs qu'on peut avoir, des élèves qu'on a accompagnés l'idée, c'est donc que vous faites du soutien scolaire, mais vous accompagnez aussi des troisièmes qui vont passer le brevet. Et voilà, je me dis toujours quand je lis des œuvres ou des autrices ou des auteurs convoquent des souvenirs, déjà je me dis c'est super de réussir à avoir des souvenirs aussi précis, moi qui ai l'impression d'avoir absolument aucune mémoire, et comment est-ce que ensuite on met en scène et on sélectionne les anecdotes en se disant justement que celle-ci fonctionnera en bande dessinée, celle-là peut-être que il vaut mieux la mettre de côté. Comment est-ce que vous, typiquement sur un album comme celui-là, vous avez fonctionné ? Est-ce que c'était d'abord mettre à plat sur une feuille absolument tout ce qui vous passait par la tête, tous les souvenirs, et voir ensuite comment est-ce qu'on pouvait raconter une histoire avec malgré tout un début, un milieu et une fin ? Comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé ?
Alors pour cet album, j'avais pas envie de le faire au départ. Parce que j'avais déjà beaucoup raconté ma vie. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé du monde du travail. Parce que c'est des questions qui m'obsèdent un peu. Parce que moi, je n'aime pas spécialement travailler, sauf dessiner. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un album de trop où je raconte encore ma vie ? Et au final, quand j'ai arrêté de bosser, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais quand même en faire un album. C'est pas pendant. En fait, j'ai jamais pris de notes quand je travaillais. J'étais pas un espèce d'espion. Alors que sur mon premier album, j'étais clairement un espion parce que c'était un job alimentaire et je savais que j'étais là un mois par an. Du coup, il fallait que je prenne un maximum de notes à chaque fois. Alors que là, c'était ma vie, c'était un vrai job alimentaire que j'ai eu pendant 2 ans. Du coup, c'était ma vie de tous les 2 jours ou tous les 2 jours parce que c'était à mi-temps. Mais ça m'est venu vraiment après. Et une fois que j'ai arrêté de travailler, c'est à ce moment-là que j'ai pris des notes, en fait. Et j'avais vraiment des moments forts que j'avais envie de mettre qui m'avait marqué des choses soit très drôles ou soit très dures. Et j'avais surtout un titre aussi. L'artiste à mi-temps, c'est un des premiers trucs que j'ai eu. D'habitude, je galère un peu plus sur les titres, mais là, j'avais envie de parler de cette situation d'être un artiste qui galère et qui doit bosser pour vivre.
Et en même temps, sans jamais le mettre en scène, c'est-à-dire que c'est l'artiste à mi-temps, mais on voit justement que ce mi-temps, on sait, on comprend que vous dessinez, on comprend que votre collègue, lui, c'est la musique qui l'intéresse, qu'il se donne quelques années pour réussir dans le jazz, mais forcément, quand on travaille à côté, on ne peut pas faire de tournée, par exemple. Mais dès le départ aussi, c'était le parti pris était clair de se dire, je vais montrer justement ce mi-temps-là, et l'autre, il n'y a pas besoin de le montrer, parce que finalement, ce que vous vouliez raconter, c'était justement cette présence sans y être totalement, et cette contrainte finalement, effectivement, du job alimentaire, qui est vrai quand c'est l'artiste à mi-temps, mais ça peut être aussi dans d'autres conditions, cette idée de job alimentaire.
Oui, parce que ça induit un peu, on rentre dans le livre et on comprend tout de suite que là, c'est un job... alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup ça questionne aussi le rapport au travail, parce que moi j'ai pas spécialement envie de faire ce travail, les élèves qui viennent ils ont pas forcément envie de travailler non plus, et c'est ce qui nous rapproche un petit peu, quoi. Voilà, donc je trouvais ça intéressant, ce parallèle de on est tous dans le même bateau et au final on navigue un peu comme ça. Et le fait d'être catapulté dans un lycée professionnel, je ne connaissais pas du tout non plus ce milieu. Moi, je suis assez intéressé par la sociologie et les sciences sociales en règle générale. Et c'est vrai que les profils des élèves en lycée pro, ça a été pour moi aussi quelque chose de l'ordre de la découverte aussi, quoi.
Et votre personnage le dit, votre personnage il dit rien à voir avec mes années lycée. Il y a un truc d'incompréhension,
oui,
aussi.
Mais pas que de génération, vraiment de... Moi j'ai grandi dans un environnement hyper... avec que des blancs, dans une petite ville un peu bourgeoise. Enfin, ça n'a rien à voir. C'était vraiment... C'était vraiment une découverte pour moi d'être dans un lycée, ouais, professionnel, quoi, tout simplement. Où eux vont apprendre un travail très concret aussi. Ça, voilà. C'est que quand tu es dans un lycée professionnel, tu vas avoir un travail hyper concret, alors que moi, je suis artiste. C'était aussi intéressant à questionner ce rapport au travail, parce que moi-même, j'aimerais pas apprendre un travail sérieux, quoi.
Et d'ailleurs, par rapport justement au métier d'artiste, c'est un moment une question que vous pose un des élèves qui dit mais à quoi ça sert, parce que vous allez être amené à donner des cours de dessin, on va l'évoquer, mais il y a cette question-là. Et moi, j'ai fait des ateliers d'écriture en collège et en lycée, et effectivement, cette question de mais à quoi ça sert.
Oui, ouais, mais c'est... Il y a le à quoi ça sert, mais il y a aussi des élèves qui avaient un profil hyper... qui étaient hyper créatifs, quoi. Et au final, c'est toujours des questions de milieu social. En fait, ces élèves, ils auraient très bien pu faire des études artistiques, je sais pas, devenir rappeur, artiste. Enfin, je les sentais pas.
Surtout qu'ils mettent sur leur fiche de renseignement, ouais, ils mettent qu'est-ce que vous aimez, c'est le sport, la musique et les arts plastiques. Et votre personnage dit, mais en fait, c'est tous des artistes.
En fait, ils sont hyper créatifs, ouais, c'est ça. Mais il y a un espèce de truc, un peu de fatalisme aussi dans ce livre, où ces élèves, finalement, ils n'ont pas trop le choix. Moi, j'ai eu le choix parce que j'ai conscience de mes privilèges. Mes parents, ils m'ont payé... Enfin, je viens d'une classe moyenne, mais mes parents, ils m'ont quand même payé mes études. J'ai toujours été suivi dans mes devoirs. J'ai eu la possibilité, en fait, de devenir, entre guillemets, artiste, même si je ne gagne pas des milliers et des cents, mais j'ai eu cette possibilité. Alors que ces élèves qui ont un profil hyper intéressant n'ont pas cette possibilité. Et ça aussi, j'avais envie de faire un livre un peu fataliste, quoi, mais comme le monde l'est, quoi, finalement.
Et d'ailleurs, votre personnage le dit, que d'un seul coup, mes grands principes sur la pédagogie ne marchent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un idéal, de l'ordre d'une volonté de transmission, et qui est confronté à la réalité. Effectivement, il y a toujours des choses qui passent, des élèves qui sont réceptifs, mais forcément, la réalité est beaucoup plus complexe que des grands principes d'humanisme, en fait.
Ouais, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Moi, j'avais je me suis dit, pour une fois, je vais faire un job pas trop bête où je vais pouvoir aider des élèves, parce que le principe, c'est quand même de faire des cours de soutien, quoi. Mais je me suis vite rendu compte des limites. Parce que moi, je me suis dit au départ, bon, je suis pas chiant, je suis plutôt sympa, ça va bien se passer. Mais en fait, non, l'adolescence, c'est chaotique, quoi. Donc, même moi qui avais l'impression d'être plutôt à l'aise, j'ai pris des trucs. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est l'adolescence, le côté à la fois tragique, parce qu'il y a des situations complètement dingues, et le côté comique, parce que en fait, les élèves, ils sont quand même marrants, même quand ils se foutent de ma gueule. En fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils cherchaient toujours une espèce de limite avec moi. Ou quand on faisait des dessins, quand on faisait des ateliers de dessins, ils se dessinaient avec un zizi à la place du nez ou des choses comme ça. Et comme si moi, en tant qu'adulte, je voyais pas ça, alors que moi aussi, j'ai eu leur âge. Moi aussi, j'ai dessiné des zizi partout. Et j'aimais bien ce rapport un peu de... Ils cherchent constamment la limite. Et après, je leur dis, mais pourquoi le nez, il est comme ça? Et puis d'un coup, ils sont hyper sérieux. Ils ont un peu honte de ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'il y avait un jeu un peu marrant avec le fait de ne pas assumer totalement la démarche de faire des trucs régressifs, quoi.
Et forcément, il y a des personnages, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois des groupes d'élèves, mais il y a aussi des personnages qui reviennent plusieurs fois. Comment est-ce que vous avez transformé certains de ces élèves en personnages, parce que c'est important, c'est malgré tout vous racontez une histoire, c'est important que certains personnages soient plus particulièrement identifiés. Je pense à la taupe, je pense à Murat, je pense à cette jeune fille malvoyante qui vous demande de faire des recherches complotistes sur internet et qui après vous demande s'il y a le livre d'Éric Zemmour qui existe en braille et si on peut le commander pour le CDI. Comment est-ce que vous avez imaginer ces personnages.
Alors, il y a des j'ai beaucoup d'imagination, mais il y a des choses qu'on peut pas imaginer. Hein. Le livre de Zemmour en braille, j'aurais jamais pensé. Du coup, il y a des choses qui sont servies sur un plateau, quoi. Il suffit juste de déceler la potentialité de cette scène, quoi. Et sinon, la création de personnages, alors j'avais beaucoup d'élèves, du coup, j'ai essayé de m'attacher un peu à, entre guillemets, des archétypes. Il y a l'élève un peu méchant, mais pas que. En fait, j'aime bien les personnages en plusieurs dimensions. Donc, il y a un élève très méchant, et à la fin, d'un coup, il y a une once d'espoir de gentillesse. Et j'aime bien aussi les personnages un peu à côté de la plaque. Par exemple, Mourad, qui est clairement, qui n'a pas trop d'amis, et du coup, qui vient vers nous, les adultes, et qui nous dit « Salut, collègue ». J'aime bien les élèves un peu à la marge, parce que l'adolescence, c'est quelque chose d'assez violent, et en fait, on voit très vite les gens isolés, les gens cool. Et ouais, j'ai essayé d'avoir des personnages qu'on peut définir, mais en plusieurs dimensions à chaque fois, quoi.
Complètement. Et comment est-ce que vous avez travaillé le traitement graphique, puisque il y a donc le récit, il y a l'usage de la trame, on y reviendra peut-être, l'usage de la couleur aussi qui sert vraiment la narration, et il y a justement tous ces passages où c'est davantage l'histoire des élèves ou bien des moments de travail avec les élèves qui est traité dans un format qui relève davantage du strip et où on est dans une bichromie. Comment est-ce que vous avez imaginé l'album d'un point de vue vraiment graphique ?
Et moi, je suis assez influencé par la bande dessinée américaine. Je pense que j'ai un dessin assez froid et moche, peut-être.
Mais j'aurais pas dit comme ça.
Bon, je vais le dire comme ça. Mais j'aime pas trop dessiner des belles choses. C'est pas trop ma vision du monde. Je trouve que le monde est... J'aime bien dessiner...
Les doigts qui curent le nez.
Les doigts qui curent le nez, les murs cassés, enfin, les décors un peu... Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai quand même vu pas mal d'endroits un peu déserts et abandonnés, quoi, et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'aime pas trop dessiner des belles choses. Je préfère montrer des images un peu plus... je sais pas comment dire, mais... une humanité un peu plus sale, quoi. Je sais pas trop si c'est le bon terme, mais
Juste une parenthèse, mais sur le dessin en lui-même, j'ai eu l'impression, bien évidemment, on reconnaît totalement votre style par rapport aux albums précédents, mais il y a quelque chose aussi de plus géométrique, j'ai l'impression, de plus maîtrisé au sens de d'avoir quelque chose peut-être de moins lâché dans le trait, mais qui en même temps pose extrêmement bien chaque décor, chaque personnage. J'ai le sentiment qu'à la fois on vous reconnaît totalement et en même temps j'ai l'impression qu'il y a une nette évolution dans le dessin déjà en lui-même. On parlera de la trame et des couleurs, mais dans le dessin en lui-même, est-ce que vous avez cette impression aussi?
Ouais, je pense que je suis plus au clair avec ce que j'ai envie de faire en fait. Bah, mon premier album, j'avais jamais fait de bande dessinée avant. Si, j'avais fait 3 pages un jour dans ma vie, et je suis passé de 3 pages à 160 pages. Donc je savais pas faire de bande dessinée. Alors j'ai pris un espèce de stylo pinceau que j'avais jamais utilisé et j'ai essayé de survivre avec ça. Mais c'est ce qui fait les qualités et les défauts d'un premier album. Et là, je suis plus dans quelque chose de géométrique, avec des règles. Ce qui marchait bien pour le lycée, parce que j'ai beaucoup dessiné de gris, les grillages autour du lycée, à essayer d'amplifier un peu le côté carcéral d'un lycée, tout simplement, parce qu'on est enfermé. Moi, je suis moi-même enfermé dans le CDI. C'est une espèce d'énorme prison. Et le côté... pour les couleurs, j'ai des passages, oui, en fait, en fonction des saisons, parce que le lycée, on commence en automne, donc couleurs automnales, orange, bleu. On arrive en hiver, des couleurs un peu plus sombres. Après, printemps, été. Et l'été où c'est très, très chaud, quoi. C'était important pour moi de faire comme ça parce que, justement, les périodes scolaires, c'est hyper marqué par les saisons. Donc, on commence les vacances, tac, les vacances. Et en fait, les élèves, eux aussi, changent quand on les a au tout début. Alors, c'est pas hyper clair dans le livre. On va pas se dire ils ont vraiment beaucoup changé, mais j'ai quand même des micro-changements. Il y en a, j'aurais rajouté un peu de barbe, des choses comme ça. C'est des choses qui sont pas trop... qui sont semi-perceptibles, mais c'était quand même important pour moi d'avoir une espèce d'évolution physique des élèves aussi, parce que d'une vacance à l'autre, d'un coup, ils ont pris 10 cm, ils ont mué. Du coup, ouais, c'est surtout un changement en fonction des saisons, quoi, parce que c'est vraiment très marquant quand on est élève ou quand on est prof ou assistant pédagogique.
Et qu'est-ce qu'apporte l'usage de la trame qui fonctionne hyper bien, vraiment? À quel moment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'était au moment de la mise en couleur? Ou est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que vous avez eu recours à ça?
J'ai toujours mis des ombres dans mes livres parce que j'ai un dessin assez plat. Et en fait, le fait de mettre des ombres, ça rajoute tout de suite du volume, quoi. Et les trames, c'est venu parce que je lis...
Les trames, c'est des petits points.
Oui,
en fait.
c'est une succession de petits points. Ouais, c'était pour se rapprocher un peu d'un... Comme ma couleur est numérique, j'avais envie de me rapprocher d'un truc un peu plus plastique. Parce que les trames, c'est un vieux procédé qui a été utilisé... plein de fois. J'ai lu pas mal de mangas aussi. Et c'est vrai que pour faire des espèces de gris optiques ou des... Donc, en fait, ça permet d'avoir des superpositions de trames, ça permet d'avoir des teintes en gardant une palette. Donc, ça me faisait des espèces de jeux de couleurs que je trouvais intéressant et qui rajoutaient beaucoup de volume à ce que je faisais, quoi. Donc, notamment en été, par exemple, où j'ai mis beaucoup de jaune et de rouge, et la superposition, enfin, le léger décalage de trame, ça me permettait d'avoir un orange et une couleur supplémentaire à ma palette, quoi.
Et sur ce que je disais des histoires des élèves, c'est vrai qu'il y a le sentiment, et encore une fois, ça fonctionne vraiment hyper bien, c'est qu'il y a l'histoire principale, justement, avec ce temps qui passe et avec votre personnage dans ce CDI, et que les moments passés vraiment avec les élèves qui sont en bichromie, et qui sont dans un rythme différent aussi de l'histoire principale, avec plein de guillemets principales, parce que toutes ces histoires font partie de l'histoire elle-même. Mais vraiment, ça fait comme des incises, comme des moments vraiment posés avec les élèves. Et je me demandais, en lisant, si c'était des passages que vous avez aussi pensé individuellement, c'est-à-dire c'est comme si d'un seul coup on avait une pause dans le temps et qu'on passait un moment avec eux. Et je trouve que ce procédé fait qu'il y a un rythme dans ce livre, alors même que ça se passe toujours au CDI et qu'il pourrait y avoir une monotonie qui n'est absolument pas présente dans ce livre.
Ça permettait vraiment de couper donc ces moments vraiment en monochrome quasiment ou en bichromie. Encore une fois, moi j'ai aussi une culture, j'ai lu beaucoup de strips dans ma vie et j'adore ça. Et c'était vraiment c'est juste avoir des bandes comme ça, d'avoir un moment un peu à part où c'est vraiment le moment où on bosse ensemble en fait. Et d'avoir vraiment des petites scénettes, d'avoir un travail très court de scénettes. Et effectivement, ça coupait un peu le côté monotone, parce que c'est un album où il n'y a pas énormément d'action, quoi. Enfin, moi, je suis très...
Il n'y a pas énormément d'action, mais en même temps, il y a vraiment un vrai rythme. En fait, il y a quelque chose, il y a une tension.
Oui,
on va y revenir avec des moments, justement, où c'est particulièrement tendu. Mais il y a vraiment quelque chose... qui est d'un vrai rythme qui fait qu'alors même qu'encore une fois ça se passe dans un CDI tout le temps, il n'y a pas un seul moment où justement on ressent de monotonie.
Je suis très attaché au rythme parce qu'effectivement moi je ne fais pas du tout des BD d'aventure et d'action avec des trucs de dingue. J'adore les plans fixes par exemple parce que je trouve que c'est assez chiant à dessiner les plans fixes. Parce qu'on dessine constamment les mêmes cases quasiment, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de faire en termes de rythme, d'avoir des moments où en fait on s'ennuie ensemble, où on est dans un CDI et il y a personne et en fait il y a pas de raison de cadrer avec des plans très dynamiques en fait. Et c'est ce que j'étais très attaché à ça. Et en termes de rythme, je relis constamment moi. Depuis le début, quasiment, j'ai dû le lire au moins 200 fois, cet album. Mais je suis très attaché au rythme de quand on tourne les pages, comment l'histoire évolue, quoi. Donc, dès que je rajoute des pages, je recommence à chaque fois la lecture du début pour justement garder ce rythme et d'avoir des moments un peu plus creux et ces moments avec écrit au travail où ça va plus vite et après on redescend. Et
ça passe forcément par le dessin et par le découpage. Est-ce que vous avez une phase d'écriture où il n'y a pas de dessin, ou est-ce que ça vient directement avec du découpage de l'image? Parce que quand je vous entends, j'ai du coup le sentiment que les scènes, vous les dessinez immédiatement et que ce travail finalement après de resserrer les vis quelque part, de se dire comment est-ce que se fait l'enchaînement, comment est-ce qu'on tient un certain rythme, c'est de l'agencement qui peut ne passer que par le dessin.
J'écris pas du tout les dialogues en fait. Je suis en train de changer un peu de manière de travailler, mais là c'était vraiment en fait je fais directement du storyboard, je me lance directement dans le dessin et j'avance au fur et à mesure, mais je jette énormément de scènes. Souvent je fais une scène ou deux et je dors la nuit et le lendemain j'ai comme une espèce d'épiphanie où je me dis soit c'est trop court ou soit c'est trop long et je redécoupe en fait. Et le storyboard je le fais pas à l'ordi, j'aimerais bien avoir j'ai ce fantasme là de travailler sur un ordi parce que ça m'éviterait de gaspiller tout ce papier, mais en fait j'arrive pas parce que j'ai besoin d'avoir les pages devant moi et j'ai besoin de mettre des coups de ciseaux, de coller, de scotcher, d'avoir un document de travail vraiment palpable en fait. Et c'est comme ça que j'avance en fait.
Et je parlais de tension, il y a un vrai jeu aussi avec les codes de la bande dessinée. Je pense par exemple à un moment où c'est avec les troisièmes justement, les troisièmes qui sont plutôt dur avec vous, et je me souviens plus exactement, mais vous leur demandez de réfléchir à une ville, et il y a d'un seul coup un énorme moment de tension, et il y a cette double page où on va retrouver les lettres du mot travailler, et avec de la tension qui monte, et les lettres qui vont comme se briser à la fin, et je me suis dit... il y a quelque chose à la fois de l'ordre d'une fluidité extrême qui est travaillée et de rythme, et en même temps, vous avez réussi à intégrer dans ce récit-là des vrais jeux avec vraiment les codes de la bande dessinée. Cette double page, je trouve qu'il y a vraiment une super invention au niveau de la tension et de comment rendre palpable une tension d'élève juste autour d'une table, en réalité.
Ben c'est gentil, déjà. Mais ouais, je suis assez attaché au travail de typographie en bande dessinée. C'est pour ça qu'il y a pas mal de titres, ce fameux panneau au travail après chaque qui est avant les strips que je fais. Et là, effectivement, cette double page où il y a écrit au travail en grand, il y a aussi un espèce de travail entre les lettres. J'ai pas mis les mêmes espacements à chaque fois. Donc en fait, l'idée c'était d'aller de plus en plus vite. De plus en plus vite et d'intégrer la typographie dedans. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je suis très attaché en fait à la culture bande dessinée. Il y a des auteurs de bande dessinée qui n'en lisent pas ou très peu et qui sont plus attachés au cinéma, par exemple. Moi, j'ai quand même, je pense, une vraie culture en bande dessinée. Et avec les codes de la BD, je trouve que ça a une potentialité énorme. Et c'est vraiment un héritage que j'ai envie de mettre dans ce que je produis, quoi. Même si je suis aussi influencé par le cinéma, mais peut-être un peu moins que d'autres auteurs rissent.
Mais c'est ça qui est génial, c'est d'explorer justement les potentialités de la bande dessinée. Et c'est aussi le cas à un autre endroit où vous accompagnez votre personnage, accompagne un élève chez le CPE. Et forcément, on sait ce qui s'est passé pour qu'il aille chez le CPE. Et plutôt que de répéter les choses qui arriveraient dans la réalité, on répète, on va voir une première personne en disant ce qui s'est passé, puis on l'amène au CPE et on lui répète ce qui s'est passé. Vous utilisez des bulles dans lesquelles vous mettez trois petits points et vous jouez là à fond, ce qui est le cas partout, mais là en particulier, sur les gestes des personnages, les réactions, pour qu'on comprenne justement. Et pareil, dans quelque chose qui va assez vite dans le rythme, qui permet justement de ne pas perdre le temps avec des dialogues là où il n'y en a pas besoin, puisqu'on sait ce qui se passe. Et là aussi, j'ai senti de l'amusement, justement, encore une fois, avec vraiment avec ce que peut la bande dessinée.
Ouais. Alors, c'était une scène, effectivement, que j'ai tout de suite pensé comme ça, parce que j'avais pas envie d'être... En fait, c'est une scène qu'on est censé comprendre en lisant ce qui se passe avant, quoi. Et j'avais pas envie de répéter. C'est le passage du coup chez la CPE. J'avais pas envie de répéter. L'élève, il a fait ça. Je trouvais ça plus puissant, en fait,
complètement.
D'avoir un côté, entre guillemets, muet, et juste avec là aussi des signaux. Je sais pas comment on dit, qui sont très compréhensibles en BD, donc. Des bulles d'énervement, des bulles de trois petits points ou juste un cadrage sur une tête. Et en fait, l'effet est beaucoup plus fort que si j'avais été hyper factuel en répétant exactement il s'est passé ça. Et ça aussi, oui, la bande dessinée, ça nous permet de faire des jeux comme ça qui sont hyper intéressants, quoi.
Et je le disais tout à l'heure, à un moment, votre personnage donne des cours de dessin. Il devient artiste à trois quarts temps, puisqu'il peut aussi, au lycée, donner des cours de dessin ou pratiquer son art. C'est des cours de dessin qui sont donnés à des élèves assistants polyvalents. Et vous demandez aux élèves, votre personnage demande aux élèves de se dessiner en disant bien, il faut que ce soit... très imagé, ça peut être complètement, voilà, quelqu'un qui aime beaucoup faire la sieste par exemple peut se dessiner avec une tête de chat ou des attributs d'un animal, et vous expliquez pourquoi vous vous représentez toujours en blanc. Comment est-ce que vous avez trouvé cette façon de vous représenter qui est présente dès le premier album, donc dès les études, et qu'est-ce que ça a de particulier justement de se mettre en scène, et encore une fois dans plusieurs albums, donc après faut être à l'aise avec soi-même en tant que personnage.
Ouais, mais j'en ai un peu marre de me dessiner, on va dire. C'est hyper auto-centré de se dessiner tout le temps. Et effectivement, après, ça reste un personnage. Dans mon premier album, encore une fois, je savais... Non, je ne vais pas dire que je ne savais pas dessiner, mais j'étais pas hyper à l'aise non plus. Et comme c'était, ça se passait dans un supermarché Leclerc, j'avais un t-shirt Leclerc blanc. J'étais un peu habillé en blanc, quoi. Et j'ai commencé à dessiner mon personnage. Alors je savais pas trop quoi faire au niveau de mes cheveux parce que je suis passé chez le coiffeur aujourd'hui. Mais il m'arrive d'avoir une coupe de cheveux pas possible, quoi. Et graphiquement, j'avais envie de faire quelque chose de très simple parce que je me suis dit. Je vais me dessiner tout le temps. Si je commence à faire un truc complexe, j'ai pas les épaules pour ça. Et du coup, j'ai fait un espèce de truc pour les cheveux. J'ai fait deux yeux, un nez. Je suis même pas sûr d'avoir fait une bouche sur le premier. Ou je crois que j'ai pas mis une bouche. Et en fait, j'avais un personnage un peu simple et à la fois candide, parce que dans mon premier album, je me plaçais vraiment en tant qu'observateur, en fait. Ce qui est intéressant, c'était pas tant ma vie, c'était plutôt la vie des gens dans un supermarché, le microcosme un peu. Et du coup, je me suis mis beaucoup en retrait et avec plutôt des grands yeux pour être observateur. Et en fait, le fait de se dessiner en blanc, c'est à la fois une manière d'être un peu éloigné, de pas être dans la scène, comme un fantôme un peu. Et en même temps d'être très visible parce qu'on est en blanc et tous les autres sont en couleur. Donc c'est à la fois un effacement et à la fois une mise en avant qui m'intéressait. Après, au fil des albums, moi-même, j'ai grandi. Donc j'ai commencé à donner un peu plus de matière un peu à ce personnage. Je lui ai mis une bouche. Je me suis mis des habits de couleur. Après, je me suis mis une vieille moustache. Comme un peu là aujourd'hui. Et au final, plus j'avance dans les albums et plus je me livre aussi, je suis un peu moins candide, un peu plus déprimé, je sais pas. Et en tout cas, j'ose plus je donne plus de choses personnelles qu'avant, quoi. Avant, j'étais un peu coincé, un peu, mais en même temps plus jeune et plus timide, quoi. Enfin, donc mon personnage, il a évolué en même temps que moi. C'est beau ce que je dis.
Et pour vos albums, vous partez d'expériences personnelles, de choses que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a, et vous dites, j'en ai un petit peu marre de me dessiner, est-ce qu'il y a la crainte, à un moment, je pense à ça, parce que dans le roman de Carole Fives, qui a été publié en début d'année, le personnage principal est une romancière qui arrive à ce moment-là où elle a publié 5 romans, je crois, et où elle se dit, mince, j'ai l'impression d'avoir épuisé tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie qui pouvait donner de la matière à de la fiction. Est-ce qu'il y a cette crainte-là ou est-ce que, parce que justement, il s'agit d'observation aussi, il s'agit de regarder le monde autour, est-ce que vous vous dites, de toute façon, il y a toujours 1000 choses à raconter dans ce qui nous entoure. Est-ce que vous vous posez cette question justement de vous en tant que personnage et de se dire, à un moment, il va falloir que j'abandonne ce personnage et raconter d'autres histoires, d'autres personnages.
Ouais, bien sûr. Je perçois, entre guillemets, les limites de ça. Mais c'était surtout... en fait, me dessiner, c'était un prétexte pour raconter les autres, quoi. Et effectivement, j'ai toujours... Le travail, c'est quelque chose qui revient dans ma production. Questionner un peu ce que c'est le travail... J'ai parlé de mon club de foot parce que je voulais parler de la campagne, en fait. Je voulais parler de là où j'ai grandi, de ce que je connais, d'un sujet que j'avais l'impression de maîtriser. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dans ces portraits. Mon album sur le foot, il parle très peu de foot, en fait. Il y a une scène de 4 pages avec du foot parce que vraiment, il fallait que j'en mette quand même. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens, en fait. Et pour mon troisième album, j'ai parlé d'une
histoire
d'une
d'amour,
peine de
la
cœur,
fin de...
ouais. C'était au final, j'ai gagné de l'argent grâce à cette rupture. Du coup, je la remercie.
Est-ce qu'elle perçoit des droits ?
Et comment elle perçoit des droits ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Il manquerait plus que ça. Et oui, du coup, j'ai quand même épuisé beaucoup de sujets. Maintenant, je suis très amoureux. J'ai arrêté de travailler, enfin, par la bande dessinée. Du coup, tout va bien dans ma vie. J'ai plus grand-chose à raconter, je crois, pour l'instant. Et j'ai pas envie d'être dans la caricature de la personne qui raconte, qui n'a plus rien à raconter, ou je suis trop jeune pour ça, je crois. Du coup, là, j'ai plutôt des envies de fiction, ouais, avec des personnages inventés. J'étais pas du tout attiré par ça avant. Et là, le fait d'avoir fait ces 4 albums où j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses que j'avais envie de dire, ça m'a un peu débloqué des envies, quoi. Et maintenant, c'est vrai que je suis vachement attiré par la fiction, mais tout en gardant quand même des thématiques. J'aime bien les choses qui se passent un peu à la campagne, avec des personnages. Enfin, même si je fais de la fiction, je pense que je reste quand même un peu dans des thèmes qui me sont chers, quoi.
À un moment dans la bande dessinée, votre personnage dit à un élève, viens, on va faire les artistes, et il lui dit, regardez le monde pour... Il faut regarder le monde autour pour en tirer des trucs. Il dit, on est un petit peu comme des pêcheurs, on va à la pêche aux images. Est-ce que justement, vous disiez, quand je travaillais, je prenais pas de notes au fur et à mesure parce que je n'y pensais même pas, c'était pas le sujet. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui justement se baladent carnet à la main et croquent des choses de la vie, justement ? Est-ce que l'observation est liée à l'acte de dessiner, ou bien est-ce que c'est juste justement être hyper attentif à tout ce qui se passe en disant on est poreux, et après forcément quand on écrit on a besoin de cette porosité parce qu'on a besoin de connaître différentes personnes, différentes vies qu'on découvre à travers l'observation, en fait.
Ouais, l'observation c'est 80% de mon travail, je pense. Enfin, je trouve que le monde est fou et que du coup il y a des idées. Enfin, je sais pas, moi je passe pas une journée sans me dire il se passe pas un truc, une dinguerie, quoi. Les gens ils sont fous. Là je suis arrivé à Paris, les gens ils klaxonnent, ils sont cinglés. J'ai l'impression d'avoir déjà emmagasiné. Enfin, il y a des émotions qui passent, quoi. Il y a des choses. Et oui, effectivement, moi, j'observe. Si j'ai un carnet, ouais, de temps en temps, j'écris des trucs ou je dessine, mais je suis pas non plus un dessinateur compulsif de carnet. J'aime bien dessiner en vacances, un peu des paysages, un peu comme de manière un peu dilettante comme ça. Mais non, j'observe. Ouais, j'observe énormément et j'écris beaucoup. Mais quand je suis sur mon bureau, quoi. Prise de notes, je pense que j'ai plutôt une bonne mémoire. Enfin, je suis assez vite marqué par des choses et comme je suis un être assez obsessionnel, j'oublie pas trop les choses. Du coup, j'ai pas tant ce besoin de noter non plus. Je garde beaucoup les choses en tête, quoi.
Vous parlez de votre bureau, vous travaillez en atelier. En quoi est-ce que c'est important pour vous d'être justement avec d'autres artistes, de peut-être montrer aussi ce sur quoi vous travaillez, d'être nourri aussi par les échanges et les réflexions des autres à propos de leurs propres albums, qui peuvent rejoindre des interrogations que vous vous posez vous-même à propos d'un travail en cours ou d'un travail futur. En quoi c'est précieux pour vous d'être en atelier ?
Oui, alors ça fait depuis 2019 que je suis en atelier. Et c'est vrai qu'avant, je travaillais dans ma chambre. C'était pas hyper à côté de mon lit. Il faut jamais travailler à côté de son lit, c'est une très mauvaise idée. Et j'avais du mal, en fait, à m'arrêter. Parce que quand on bosse chez soi, je sais pas, ça doit peut-être être mon éducation judéo-chrétienne. Mais j'ai eu du mal à savoir quand m'arrêter de travailler. Quand on est indépendant, on peut travailler jusqu'à n'importe quelle heure. Et c'est pas forcément... très sain en rythme de vie, quoi. Et l'atelier, ça m'a vraiment... je me fais plutôt des horaires de bureau maintenant et je crois que ça me va. Et effectivement, de travailler avec des gens qui créent... de ne pas être seul, en fait, parce que c'est un métier très solitaire, la bande dessinée. Et de voir des projets qui avancent, de discuter, c'est hyper important et c'est très stimulant. Surtout que je suis en atelier avec des gens très doués. Et du coup, bah, c'est un espèce de cercle vertueux, je pense.
Est-ce que vous montrez ce que vous faites, justement, parce que vous dites, j'ai contacté les éditions Sarbacane quand j'en étais à 200 pages. Est-ce que vous faites lire ce que vous faites en temps réel ou à un moment donné quand vous êtes suffisamment avancé ou quand vous avez des doutes ou quand parce que forcément vous le dites c'est un travail solitaire, j'imagine qu'à un moment on a du mal à avoir du recul, vous dites je lis, je relis le rythme, à un moment quand on connaît par cœur ce qu'on raconte, savoir juger si c'est efficace ou pas, on peut un petit peu perdre son fil à plomb.
Cet album je l'ai montré à une personne. Je suis pas trop maintenant ça va mieux je crois. Mais au début, j'avais du mal à montrer parce que j'avais eu des expériences où j'avais montré à mes copines à l'époque et elles étaient là, je suis pas sûr, je comprends pas. Et je le prends hyper personnellement, comme je suis quelqu'un d'assez borné. Et du coup, j'ai eu du mal pendant très longtemps à montrer mon travail parce que c'est quelque chose de très personnel et parfois avoir un retour un peu... Enfin, comme on est on est tous auteuristes, du coup, on prend des pincettes parce qu'on est, on est tous un peu sensibles, quoi. Mais je montre de plus en plus, mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Mais dans mon travail, je suis quand même assez rigoureux dans la relecture. Parfois, ça prend du temps, mais j'arrive quand même à avoir du recul, je pense, sur ce que je fais. Comme je le lis beaucoup. S'il y a un passage, parfois ça prend du temps. Je me dis, ok, peut-être que ce passage il est pas très bien et je prends du temps à me convaincre. Mais à force de le relire, je crois qu'à un moment je comprends que c'est pas bien et ça me l'a fait sur cet album. Moi, il y a un moment où je le relisais et j'essayais de me convaincre que c'était bien, mais en fait j'ai craqué, j'ai gagné le combat face à moi-même, comme quand on se bat contre son double maléfique. Et j'ai gagné ce combat et j'ai compris que et j'ai repris ce projet en fait quasiment du début. J'avais écrit.
Qu'est-ce qui fonctionnait pas ?
Le début était pas on rentrait pas bien dedans, je crois. Et en fait j'avais quasiment tout mais pas de la bonne manière quoi. Donc j'ai repris j'avais écrit 70 pages. C'était pendant le Covid en plus j'avais vachement le temps de faire ça. Et j'ai repris tout et je sais pas, tout était plus clair quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Je pense qu'il faut beaucoup dormir. Ça aide à. Non, il y a un vrai truc dans le sommeil. Je pense qu'on réfléchit dans le sommeil. Je sais pas ce qui se passe, mais tout est plus clair. Il y a un truc hyper magique. Je sais pas scientifiquement ce qui se passe, mais le temps est salvateur. Ouais, il faut dormir.
Vous disiez, je fais partie des autrices et des auteurs qui lisent beaucoup et qui aiment lire de la bande dessinée et qui aiment jouer avec les codes de la bande dessinée. Forcément, c'est une question toujours piégeuse parce qu'après, on se dit, mince, c'est tel artiste que j'aurais voulu citer. Mais sans être exhaustif, est-ce qu'il y a des autrices, des auteurs qui aujourd'hui, vous influencent en tant qu'artiste, vous influencent ou vous, pas de manière directe, mais dont vous vous dites, ah ben tiens, il y a vraiment une maîtrise de ce qu'est la bande dessinée, cette personne réussit à m'emporter, vraiment.
Ouais, comme je disais, je suis très sensible à la bande dessinée américaine. Par exemple, le travail de Derf Bagderf, je trouve ça graphiquement remarquable, ce qu'il raconte, c'est super. J'adore Daniel Clowes. Je trouve que c'est juste brillant. En termes de dessin, j'adore le travail de Joe Daly. Daly, je ne sais pas comment on dit. Je trouve que chaque page, il y a une vraie maîtrise de l'image, plus que du scénario. Vraiment, là, en termes d'image, je trouve ça vraiment dingue. Et après, j'ai lu beaucoup de BD entre guillemets drôle quoi. J'ai eu un choc esthétique très fort avec Pierre Lapolis quand j'étais au Beaux-Arts quoi. J'ai découvert ça et je me suis dit c'est donc ça l'humour. Et ouais, du coup je lis beaucoup de strips et de choses je sais pas ce qui me vient, Anouk Ricard, des choses très absurdes mais qui nourrissent quand même mon travail même si là dans ce que j'ai proposé comme album, c'est pas de il y a rien d'absurde quoi, c'est très dans le réel quoi. Mais en termes d'histoire, ouais, donc plutôt Derf Bagderf, Daniel Clowes, et en termes d'humour, en France, il y a plein de trucs très marrants, quoi.
Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains ont des questions pour Timothée. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Si, une question. Ah.
Sur le gong.
Plusieurs en plus.
J'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai bossé 2 ans et j'ai mis deux ans à faire ce livre. Donc en fait, il y a plus personne. Enfin, quand bien même si je retourne dans ce lycée, en fait, les étudiants que j'ai eus, ils ne sont plus là, quoi. Je suis retourné plusieurs fois dans ce lycée pour faire des. Ils étaient au courant, hein, que je faisais ça. J'ai fait des ateliers d'écriture et des choses comme ça, mais j'ai pas eu des retours d'élèves que j'ai eu parce qu'ils sont disséminés dans la nature, quoi. Et après, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a quand même des, c'est quand même assez de la création de personnages, quoi. Donc il y a des élèves qui se rapprochent assez fortement et d'autres qui sont la combinaison de plusieurs élèves, donc ça reste de l'autofiction, donc de l'écriture. Donc est-ce que ces élèves vont se reconnaître exactement? C'est une question ouverte.
Ma deuxième question, c'est quel est le thème de votre prochaine BD?
Alors, je suis en train d'écrire, j'ai signé avec personne, hein, c'est quelque chose pour l'instant.
Il entend d'en être à 300 pages.
Non, mais on rigole, mais ça fait déjà un moment que je suis dessus, parce que j'ai directement enchaîné quand j'ai rendu les pages. C'est mon côté de droite, peut-être. À écrire, c'est plutôt une bande dessinée de... Ça se trouve, ça ne verra jamais le jour, mais je vais quand même... c'est plutôt de la bande dessinée de genre... j'écris un polar, mais un polar humoristique, quoi. Donc... Je lis pas mal d'Agatha Christie, et ce côté un peu à l'anglaise, d'une histoire somme toute assez classique d'un meurtre, mais avec des personnages un peu fous, quoi. Ça donne envie, j'espère. Une fois que le storyboard est validé, alors moi, je pense que j'arrive à faire un ancrage de pages, une page et demie peut-être, par jour. Donc sur 246 pages, ça fait quand même ça fait beaucoup de jours, quoi. Je ne vais pas faire le calcul.
C'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir, comme les écrivains, certaines personnes ont des moments privilégiés.
Non, moi, comme je disais, je me fais vraiment des horaires de bureau, quoi. Donc, après, je me lève pas, je suis pas hyper matinal, hein, donc ma morning routine, c'est un petit café. Après, je vais à l'atelier, j'y suis entre 9h30 et 10h, quoi. Et après, je bosse jusqu'à midi et demi, je fais une petite pause et je bosse. Ouais, en vrai, au-delà de 5 heures de dessin, je pense, où ça commence à. Je commence à avoir mal au dos, quoi. Il y a des vraies contraintes physiques, en fait. Donc parfois, je me dis, ça sert à rien de forcer. Si j'arrive à faire une page et demie, 2 pages par jour, il y a des jours où j'en fais plus parce que les pages sont plus faciles à dessiner. Mais j'essaye d'avoir, ouais, quand même une rigueur et. Je suis à l'atelier du lundi au vendredi comme un bon fonctionnaire.
Merci pour vos réponses.
Merci.